Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Aux racines des œillets, un empire colonial en crise. Les années 1950-1960 sont marquées par un profond mouvement de lutte pour les indépendances de la part des peuples colonisés. Mais qu'en est-il du côté portugais ? Guinée-Bissau, Angola, Mozambique, Madère, les Açores, les îles du Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, mais aussi les comptoirs des Indes pour Salazar et ses soutiens. Peut-il y avoir une crise de l'empire colonial si le Portugal ne possède pas de colonies, au sens où ces territoires n'ont pas ce statut, ce ne sont pas des colonies, ce sont des territoires ultramarins du Portugal, c'est malin. Pour débuter cette histoire, rendons-nous à Lisbonne.
À Lisbonne, une autre manifestation réunissait sur la place du commerce 250 000 personnes où se retrouvaient les délégations des provinces d'outre-mer. Le Portugal en effet considère non comme colonie mais comme province et partie du territoire national les territoires tels que l'Angola et le Mozambique qu'il occupe depuis le début du XVIe siècle. Cette foule était là pour donner son adhésion à la détermination du président Salazar de défendre à tout prix l'intégrité nationale. Cette détermination, a-t-il dit, doit être interprétée partout comme l'affirmation manifeste et courageuse de notre volonté de vivre.
Le journal des actualités françaises en 1963. Bonjour Maria Benedita Basto.
Bonjour.
C'est important ce qui vient d'être dit ici. Il n'y a pas de colonie au Portugal. Ce sont des provinces portugaises, des provinces du lointain. C'est comme ça que le pouvoir de Salazar en place au Portugal conçoit tous ces territoires que j'ai évoqués, l'Angola, le Mozambique, Madère, etc.
C'est comme ça à partir dans certains moments. C'est-à-dire que ça, c'est une réponse précise à ce qui s'est passé en 61 en Angola, c'est-à-dire pour la première fois il y a ces révoltes, donc les populations vont prendre les armes, ils vont se révolter contre ce colonialisme, mais c'était pas du tout comme ça que Salazar a commencé sa politique. D'abord, il y a en 1930 une espèce de mini constitution de l'empire avec l'acte colonial. Et l'acte colonial, ça veut dire très clairement deux choses. D'une part, une séparation entre les civilisés et les indigènes, avec un statut lié à l'indigénat qui ne va en effet disparaître qu'à partir du début des luttes libération et donc de la guerre coloniale en 61. Et d'autre part, l'acte colonial inscrit ce rapport ontologique essentiel entre la nation portugaise et l'Empire et son Empire, notamment dans son article 2, qui nous dit que c'est vraiment qu'il y a une fonction historique du Portugal dans cette mission de coloniser, de civiliser ses populations.
Ah, une vraie lecture historique.
Après, juste pour terminer, donc c'est que après. La Deuxième Guerre mondiale, c'est un moment fondamental dans la politique impériale de Salazar. Et c'est après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y aura, pour répondre aux pressions des Nations Unies de démocratiser et décoloniser les sociétés européennes, Salazar va faire une révision de la Constitution, de cette Constitution de 1933, donc il fait une révision en 1951, c'est une espèce de cosmétique au fond, et c'est là qu'il va changer, disons, il va dire qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de colonie, et donc l'extrait qu'on vient d'écouter, il correspond déjà à ce nouveau lexique, à ce nouveau dictionnaire qu'il va mettre en place, mais comme réponse à ce qui se passe à l'ONU, aux pressions qu'il est en train de subir.
Oui, c'est ce va-et-vient dans le temps, entre la réponse à un moment précis, ce moment des luttes pour les indépendances, et puis les exigences de l'ONU et des États-Unis, et puis un temps plus long qui est aussi l'identité même du Portugal, avec un empire colonial qui fait partie de l'histoire. Et Salazar joue beaucoup, d'ailleurs, sur cette image-là.
Oui, il joue lui et c'est disons il y a d'autres personnes comme par exemple Hermindo Monteiro qui est là et qui aide dans la rédaction de plusieurs documents et qui sont tous dans cette mouvance de ce qu'on peut appeler la mystique impériale et ou l'héritage sacré donc quelque chose que les Portugais s'ils veulent être des bons citoyens et défendre cette nation, parce que les Portugais, en tout cas pour Salazar, n'existent qu'en termes collectifs, il faut qu'ils défendent cet héritage sacré depuis le moment de l'expansion et des découvertes, entre guillemets.
Oui, voilà, découverte entre guillemets, vous avez raison de le dire. Avec nous aujourd'hui pour réfléchir à cette question de l'empire colonial portugais en crise, Didier Péclard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé en sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève, avec une antériorité des colonies portugaises sur beaucoup d'autres colonies. Ça joue beaucoup. Alors, ces colonies, il faudrait presque les détailler, mais ça va très loin. Il faut rappeler qu'il y a des comptoirs en Inde, il y a des colonies en Afrique avec l'Angola, une présence ancienne du Portugal.
Oui, effectivement, pour ce qui est par exemple de l'Afrique subsaharienne, la présence portugaise remonte à la toute fin du 15e siècle. Elle s'établit, disons, sur la base de comptoirs coloniaux à partir de ce moment-là. Mais il y a aussi un certain paradoxe, c'est que cette présence est à la fois ancienne, pluriséculaire, mais en même temps, comme finalement la présence des autres puissances coloniales dans l'intérieur de l'Afrique, l'occupation, entre guillemets, du territoire se fait aussi assez tardivement, à partir de la fin du 19e et surtout du 20e siècle, après le congrès de Berlin. Mais effectivement, le fait qu'il y ait une présence pluriséculaire, notamment sur les bandes côtières et sur différents points de l'intérieur du pays, est une particularité des espaces anciennement coloniaux portugais.
Merci Didier Péclard d'apporter cette nuance. Il y a une maîtrise du littoral et le reste du territoire est moins contrôlé. En fait, la colonisation portugaise suit le schéma des autres formes de colonies. Il y a une antériorité sur le littoral, mais pour la maîtrise de l'intérieur des territoires, il faut attendre vraiment la fin du 19e siècle et le 20e siècle, c'est bien cela ?
Exactement. Enfin, c'est sur le littoral et dans certains points de l'intérieur. Quand même, il y a aussi des postes militaires à l'intérieur des terres, qui sont aussi des espaces de contrôle, d'échange de marchandises. Mais c'est vrai que la principale présence est sur le littoral et l'occupation se fait à partir du début du XXe siècle, surtout un nombre très impressionnant de campagnes militaires, une grande violence aussi. Qui permet finalement au Portugal de contrôler, entre guillemets, pour autant qu'on puisse utiliser ce terme, ces territoires.
Maria Benedita Bastos, c'est important cette histoire-là pour le pouvoir de Salazar. Alors bien sûr, il y a toute cette mystique liée à l'antériorité, à un passé fantasmé et prestigieux, mais dans le pouvoir concret de Salazar à partir des années 1930, il y a un regard porté sur les colonies comme preuve de puissance, possibilité d'enrichissement aussi.
Oui, on peut d'une part parler de ce qu'on appelle le pacte colonial. Le pacte colonial, c'est-à-dire cette espèce d'économie fermée entre la métropole et les colonies. Mais aussi tous ces horizons, toutes ces peurs de l'Espagne, en effet, cette idée que l'Empire, d'une certaine façon, pourrait protéger le Portugal d'une éventuelle perte d'indépendance par rapport à l'Espagne. Donc, ce sont des arguments et des éléments qui jouent, mais effectivement, tout ce côté imaginaire, un peu onirique, cette splendeur de la nation, elle est aussi un élément très fort. Donc, c'est à la fois des questions économiques, de géopolitique, mais aussi mélangées avec ces imaginaires.
Maria Benedita Bastos, vous êtes maîtresse de conférence en études lusophones à Sorbonne Université, et on peut quand même partir dans la chronologie en Asie avec ces comptoirs portugais, parce que vous évoquez le prestige, et c'est tout à fait dans une conception de ces années-là, le prestige d'avoir de nombreuses colonies. Oui, mais quand l'Inde devient indépendante et que ces comptoirs sont perdus, c'est un grand coup porté au prestige du Portugal et de Salazar. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Surtout que tout ça se passe lors d'une année terrible pour Salazar, l'année 1961. C'est l'année où, disons, on peut dire, c'est le début de la fin de l'Empire. Le moment, donc c'est vers la fin, c'est déjà en décembre qu'il y a la libération de l'Inde, si on part du côté des Indiens, ou l'annexation, l'occupation, si on se pose du côté de l'historiographie portugaise de l'époque. Mais cet événement, il arrive l'année même où l'Angola, en Angola, des populations se révoltent contre le Portugal. Et il y a aussi une fuite d'étudiants à Lisbonne, une fuite d'étudiants donc qui venaient des colonies, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enseignement supérieur dans les colonies. Et donc, ils étaient accueillis, entre guillemets, disons, au Portugal, notamment dans une maison qui s'appelait la maison des étudiants. Maison des étudiants de l'Empire, donc Casa dos Estudantes do Império. Et il y a une fuite qui est organisée, notamment avec le soutien de certains groupes en France. Et cette fuite est aussi très importante parce que beaucoup de parmi c'est une soixantaine d'étudiants qui prend la fuite. Et parmi ces étudiants, il y aura des futurs leaders des mouvements de libération. Donc ça va aussi, disons, donner une possibilité de développement de ces mouvements dans les autres colonies. Et il y a aussi la perte de la forteresse de San Juan de Batista da Ajuda, donc au Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Donc c'était une année vraiment terrible. L'Inde vient, disons, couronner cette année tragique.
Terrible année 1961 pour Salazar, oui. Avec, on le disait, hein, cette perte des comptoirs aux Indes. Et ces comptoirs-là, bien sûr, ils résonnent historiquement, on peut les citer. Hein, ce sont ces petits comptoirs, il y a Gao, il y a...
Goa, oui.
Goa, pardon, excusez-moi, il y a...
Diu.
Oui.
Et Dia Damao et Goa. Goa, Diu et Damao.
Et ceux-là, ils sont perdus, mais par une action de force de la part du pouvoir indien,
ouais,
de Nehru.
Ouais. Il faut, on peut rajouter que pour Salazar, c'était absolument hors de question une reddition de la part des Portugais. Donc il a ce célèbre télégramme que Salazar envoie pour dire qu'il ne peut qu'avoir que des morts ou des héros. Donc, c'était pour lui pas possible de penser, de baisser les bras face à cette occupation.
Oui, le choix de la violence, le choix des armes pour maintenir dans son giron ses territoires avec toujours cette terrible année 1961.
En page internationale, une information essentielle, remaniement ministériel à Lisbonne. Oui, vous savez que le président Salazar vient de prendre en main personnellement la défense nationale et il réunit même entre ses mains la présidence du Conseil et la défense nationale. Il est même en train de modifier la structure de son état-major. Les militaires prennent ainsi de plus larges prérogatives. La raison des remaniements intervenus au Portugal est donc en liaison directe avec la situation particulièrement grave qui règne en Angola. Quelles sont à ce sujet, Jean-Pierre Biondi, les dernières informations en notre possession?
C'est l'agence portugaise Lusitania qui nous les donne elle-même. Il ne se passe d'ailleurs plus de jour que ne parviennent des récits de combats ou d'attaques de la part des rebelles africains. La nuit dernière encore, de nombreux villages ont été attaqués. Le premier bilan est de 6 Européens tués. Les émeutiers se sont également infiltrés dans l'enclave de Cabinda. Ils attaquent par vagues successives, le visage peint en écarlate, et brandissent des sabres ou des armes à feu portant les initiales UPA, Union des Peuples Angolais, organisation clandestine dont les leaders sont réfugiés à l'étranger.
En 1961, interactualité, la situation en Angola. Didier Péclard, qu'est-ce qui se passe en Angola? Parce qu'il faut rappeler la chronologie. Hein, 1961, en comparaison avec les autres mouvements de lutte pour l'indépendance, j'ai envie de dire, c'est un peu tard.
Oui, c'est un peu tard. Et puis les événements dont l'archive vient de parler sont le résultat en fait de la du refus complet de la part du gouvernement Salazar, enfin de Salazar lui-même, de même imaginer une possibilité d'une décolonisation. Donc il nage vraiment à contre-courant de ce qui se passe ailleurs, enfin pour les autres puissances coloniales. Mais en revanche, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, dans les années 50 et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une effervescence nationaliste très importante, avec plusieurs mouvements qui sont tous dans la clandestinité, parce qu'à partir des années 50 aussi, la PIDE, la fameuse police politique de Salazar, est présente dans les colonies. Donc l'explosion de 1961 en Angola, elle est à la fois le résultat d'une agitation, entre guillemets, nationaliste, mais aussi le résultat de l'immense écart entre le discours lénifiant, lusotropicaliste, selon le lequel les Portugais ou le Portugais aurait cette capacité inégalée à établir des liens avec les peuples du monde, et puis la réalité économique d'une paupérisation grandissante d'une grande partie de la population. En 1961, l'explosion, elle se fait de plusieurs manières. Il y a d'abord en janvier une révolte dans une région productrice de coton, la baie de Cassange en Angola, un peu comme ça nord-est de Luanda. Ensuite, il y a le 4 février une action menée par un certain nombre de réseaux clandestins à Luanda pour essayer de libérer des prisonniers politiques qui avaient été jugés à la fin des années 50 et qui se trouvaient en prison. Et puis il y a surtout le 15 mars cette action coordonnée par l'UPA, l'Union des populations de l'Angola, qui devient plus tard le FNLA, qui est le premier mouvement nationaliste structuré en Angola, qui lance une grande attaque sur des plantations de café dans le nord de l'Angola, attaque qui sera ensuite réprimée de façon très très violente et brutale dans le sang par l'armée portugaise et par des milices armées aussi par le pouvoir colonial.
L'histoire comparée, c'est toujours très intéressant, avec la comparaison des mouvements de lutte pour l'indépendance, ça c'est une chose, mais la comparaison même des formes de colonisation. Et ici, Didier Péclard vient d'évoquer le lusotropicalisme. Et ça, c'est drôlement intéressant, cette idée-là. Maria Benedita Basto, c'est de dire que les Portugais ne colonisent pas comme les autres.
Voilà. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose encore par rapport à l'année 61 qu'on n'a pas cité, que peut-être c'est important, c'est que c'est aussi l'année de la naissance de la fondation, donc la création de la CON, c'est-à-dire la Conférence des Organisations Nationalistes des Colonies Portugaises. C'est une structure où on va trouver justement certains leaders de ces mouvements de libération, du Frelimo. Bon, là, il n'y avait pas encore le Frelimo, le PSGC et l'MPLA. Aussi un peu Goa, justement, avec Akin Brigance. Et donc, cette fondation, elle se passe au Maroc pour des différentes raisons. Mais cette structure, elle va accompagner le long de la lutte libération, avec notamment ces trois mouvements, MPLA, Frelimo, à partir du moment où elle est créée, PSGC. Et donc, ça, c'est aussi très important pour parler d'année 61. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, l'ozotropicalisme, donc c'est très important. En effet, disons que quand on parle de l'ozotropicalisme, on parle bien sûr de Gilberto Freire. Au départ, quand il a commencé à écrire les livres de Gilberto Freire, notamment Casa Grande Sanzal, traduit en France par Maître et Esclave, dans les années 30, ce n'était pas du tout une écriture, une théorie, une position qui séduisait les Portugais. Dans ces années-là, le métissage était plutôt quelque chose qui n'était pas bien vu. Mais justement, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et donc au moment où Salazar va décider de faire cette opération, ce lifting avec la révision de la Constitution, au contraire, cette idée d'une colonisation qui n'est pas dans la violence, qui est dans le métissage, qui est dans cette façon que les Portugais auront différemment des autres de créer des liens avec les populations, ça va être au contraire un point d'achoppement très important, un point vraiment fulcral, un pilier de ce qui sera le colonialisme après 51. Gilberto Freire, il a publié plusieurs livres, et notamment pour ce qui est le lusotropicalisme, ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait qu'il va être invité par Salazar à faire un tour, un voyage parmi les différentes colonies, et il y aura des livres qui vont sortir de ce voyage qui vont permettre justement la mise en circulation et la création de ce mot, d'une civilisation luso-tropicale. Je peux citer O Mundo que Português Criou, bon ça c'est un peu avant, en 1940. Après, Um Brasileiro Interrages portugaises, donc en 1963, qui correspond déjà à cette liaison entre lui et le gouvernement portugais. O Lúcio Trópico, em 61, Aventuras de Routine, Aventura e Routine, um pouco mais tard. Mas se é possível, eu voulais juste dire que il faut aussi voir la réaction des leaders, et notamment des leaders de certains mouvements de libération, et notamment de ces leaders qui avaient une démarche aussi de réflexion et de publication d'articles, parce que très rapidement, ils se rendent compte que l'ousotropicalisme, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Disons, c'est une arme très puissante pour Salazar, qui justifie cette idée de nation pluricontinentale et multiraciale. Donc, il faut vraiment attaquer et essayer de déconstruire cette idée d'un colonialisme peu violent. J'aimerais citer un article qui a été publié en Présence africaine en 1955, donc assez tôt, par Buanga Fele. En effet, c'est un pseudonyme de Mari Pintendrat, et qui avait comme titre justement « Qu'est-ce que l'ozotropicalisme ?». Après, il y aura aussi ce qui est dit par Cabral ou même Mondlane. Il a aussi, dans des conférences, essayé de déconstruire ce concept.
Voilà, un concept à déconstruire sans cesse. Mmh. Cet empire fantasmé, cet empire océanique qui devient un empire de papier. Je reprends le titre des travaux de la thèse d'Éric de Almeida Pereira Montero, d'un empire océanique et un empire de papier, parce que c'est un peu ça, Didier Péclard. Il y a la réalité de la situation coloniale avec tous ces pays autour du Mozambique, de l'Angola, qui sont devenus indépendants. Et puis, le fantasme porté par le pouvoir de Salazar avec le Portugal ultramarin.
Effectivement, le décalage entre le rêve ou la projection idéologique et la réalité est de plus en plus grand dans ces années-là, même s'il ne faut pas oublier que si on prend les pays voisins du Mozambique, la Rhodésie est encore la Rhodésie. En 1960, l'Afrique du Sud est encore, évidemment, et même entre même dans la phase la plus importante, la plus aiguë de l'apartheid. Et puis la Namibie, qui est au sud de l'Angola, est encore aussi sous contrôle sud-africain. Donc, effectivement, on connaît l'année 1960 comme la grande année des indépendances en Afrique. Pour ce qui est de l'Afrique australe, ces indépendances arriveront bien plus tardivement et suite à une lutte militaire très importante. Mais c'est vrai que au moment où la théorie, ou disons l'idéologie lésotropicale se développe et se répand à la fois au Portugal et dans ces territoires d'outre-mer, comme ils sont appelés à ce moment-là, on a en même temps plusieurs vagues en fait d'immigration notamment vers l'Angola et vers le Mozambique pour une grande partie de cette immigration donc qui vient du Portugal ce sont plutôt des petits blancs entre guillemets comme l'on dit des gens qui n'ont pas forcément une énorme formation même si là il y a des distinctions au Mozambique il y a pas mal aussi de personnes bien formées qui sont plutôt des opposants au régime et qui se retrouvent envoyés au Mozambique mais ce que une des conséquences que cela a, notamment en Angola où la présence portugaise augmente en fait de façon assez importante durant toutes les années 1960 et même avant, c'est que l'espace dans lequel les populations angolaises, africaines peuvent espérer se mouvoir et les possibilités d'ascension sociale sont de plus en plus restreintes et ça effectivement ça va aussi évidemment nourrir les mouvements nationalistes ou la réflexion en tout cas pour mettre fin à la puissance portugaise.
Direction l'Angola.
L'Angola, la plus grande des provinces d'outre-mer avec 1 247 000 km², plus de deux fois la France, reste le joyau de cet empire d'outre-mer, le plus riche en possibilités, malgré le handicap dramatique de son sous-peuplement. 5 millions d'habitants seulement, dont 500 000 métropolitains. C'est ici, à Carmona, qu'éclata l'insurrection il y a 8 ans. La paix est revenue, une paix armée. Les fazendas du café sont fortifiées. Les Portugais restent sur leur garde. Avec 200 000 tonnes exportées chaque année, l'Angola est le troisième producteur mondial de café. L'extraction du diamant est la deuxième richesse de l'Angola. 1 600 000 carats par an. Deuxième du monde pour le diamant de joaillerie. Nord du fleuve, L'enclave de Cabinda, où du pétrole a été découvert par la Gulf, une compagnie américaine. 7,5 millions de tonnes seront extraits en 1970. Depuis 8 ans, chaque bataillon qui s'est succédé ici a laissé ses morts au petit cimetière de Cabinda.
Depuis 8 ans, depuis 8 ans que l'insurrection a commencé, écoutons dans cette archive. Donc ici, nous sommes en Angola avec, c'est l'émission 5 colonnes à la une, avec l'idée qu'une paix peut être possible. On est en fait sous tension. Que se passe-t-il, Didier Péclard? On sent que cette lutte-là est une lutte constante. Les Portugais sont nombreux, ils ont envoyé de nombreuses troupes.
Oui, effectivement, après l'explosion de 1961, il y a une première phase qui est vraiment de répression très forte. À la fois répression par l'armée, répression aussi par toutes sortes de milices plus ou moins organisées, que ce soit dans les quartiers des grandes villes ou dans le nord, autour des plantations de café qui ont été donc les cibles de l'attaque de l'UPA en 1961. Cette phase d'engagement militaire très violent, elle dure un certain nombre d'années, mais en même temps on voit déjà à partir de 1961, notamment dans un certain nombre de politiques d'Adriano Moreira qui a été cité tout à l'heure, une volonté en fait de réforme à l'intérieur du système colonial. Donc on est vraiment en parallèle à cette répression, il y a l'abolition du statut de l'indigénat qui créait en fait, qui fixait comme ça les Angolaises et les Angolais, les Africaines et les Africains dans les anciens territoires portugais, dans des catégories soit indigènes, soit assimilées, avec aussi un certain nombre de critères à remplir pour pouvoir être assimilés. Et puis, dans les années 60, il y a aussi une volonté de développer en fait, à marche forcée pratiquement, les anciens, ces territoires pour, en quelque sorte, recoller, en quelque sorte, faire recoller la réalité peu à peu au discours lusotropicaliste et aussi couper l'herbe sous les pieds des nationalistes en offrant en fait un développement économique. Donc on est, alors bien sûr qu'il s'agit d'un développement économique qui est bien encadré dans une politique de contre-subversion, mais qui mènera aussi à ce développement économique qui vient d'être rappelé dans votre archive. Et à partir, par exemple, la production de café augmente, on a aussi toute une politique d'asphaltage qui est à la fois une politique qui permet des échanges marchands mais bien sûr qui permet aussi de contrôler. Il y a des villages stratégiques qui sont créés dans lesquels on regroupe les populations. Là aussi on est à la fois dans le contrôle des populations et dans l'idée que ça permettra éventuellement un développement plus important. Tout ça avec l'espoir ou le rêve, pourrait-on dire, que cela permettrait ensuite au gouvernement portugais de négocier comme ça une continuité de cet empire qui ne veut plus s'appeler comme tel mais qui inclut comme ça des territoires d'outre-mer. Évidemment c'est un rêve, ça ne marche pas, mais ce qu'on le constate sur le terrain, c'est que en revanche la stratégie militaire permet assez rapidement, à partir du milieu des années 60, d'arriver, en tout cas pour ce qui est de l'Angola et dans une certaine mesure du Mozambique, moins pour la Guinée-Bissau, à une espèce d'impasse militaire où les troupes coloniales portugaises, le gouvernement portugais contrôle, entre guillemets, les territoires utiles, c'est-à-dire les grandes villes, les espaces de production, notamment de diamants, de café ou d'autres matières premières. Et puis, les guérillas sont très présentes, plutôt dans le maquis, mais n'arrivent pas véritablement à avancer vers les points stratégiques des colonies. La Guinée-Bissau étant quand même une certaine exception. Donc on a, à partir du milieu des années 60, une espèce de situation de blocage où il n'y a pas de victoire claire, mais par contre une violence exacerbée, mais assez située et localisée.
Maria Benedita Basto, on a vraiment ici cette idée d'impasse et on le voit bien, hein, c'est des deux côtés. C'est du côté de la lutte de celles et ceux qui cherchent l'indépendance et puis de l'autre côté de la part des Portugais. C'est très long cette impasse-là, on a évoqué beaucoup l'année 1961, c'est toutes les années 1960.
Les luttes de libération, elles ne prendront fin qu'en 1974 avec la révolution des œillets, donc c'est beaucoup d'années. Comme disait Didier, la situation n'est pas exactement la même en Guinée, le Mozambique et l'Angola, puisque la Guinée, elle a pu déclarer de façon unilatérale son indépendance en 1973. Ce n'est pas le cas des deux autres colonies, même si, dans le cas du Mozambique, il y avait déjà des avancements. Le Frelimo avait déjà réussi à s'approcher de la deuxième ville, la plus importante, qui était Beira.
Direction, cette fois-ci, la Guinée.
Des trois provinces africaines, la Guinée est à la fois la plus petite, 36 000 km², la superficie de la Belgique. Elle a pu violemment secouée par la guerre civile, aggravée d'interventions étrangères qui embrassent toutes ses régions frontalières. Reconnue en 1446 par le navigateur Nuno Tristão, elle comptait près de 600 000 habitants, dont seulement 3 000 métropolitains, lorsqu'éclata en 1959 à Bissau, la capitale, une grève des dockers qui marqua le début de la lutte engagée par un agronome d'origine métisse, Amilcar Cabral, et son parti marxiste, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. En 1963, suivant la thèse du cubain Che Guevara, il déclenchait la lutte armée. Depuis, la guerre s'est étendue à la quasi-totalité du territoire.
L'émission Point contre Point en 1969 avec la présentation de la situation en Guinée, Maria Benedita Basto. Ici, on a l'évocation d'un personnage, Amilcar Cabral, métis. Et vous avez travaillé sur cette question du métissage et de ses avatars contemporains. C'est quoi la situation en Guinée? Qu'est-ce qui différencie la Guinée de ce qui peut se passer au Mozambique ou en Angola?
Juste un petit mot par rapport au métis. C'est curieux de parler de Cabral comme un métisse. Je pense que c'est parce que, à cause de ses origines capverdiennes, qu'il y a cette idée de métisse. C'est pas vraiment quelque chose qui a été revendiqué par Cabral dans ce sens-là. Au contraire, il y avait une revendication d'une africanité, une espèce de retour aux sources, comme il disait. Cabral, c'est Cabral et le PAIGC, c'est un cas très intéressant de ce point de vue d'une analyse des luttes de libération. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette victoire et ces résultats. Il faut aussi peut-être ajouter que Cabral a été assassiné en janvier 1973, c'est-à-dire l'année de cette déclaration unilatérale à Madinabué. Donc Cabral a préparé cette déclaration, a préparé cette indépendance, mais il n'a pas pu l'avoir puisqu'elle a été assassinée à Conakry en janvier, le 20 janvier 1973. La Guinée-Bissau, c'était un petit territoire. Et déjà, disons que les conditions de vie de cette colonie, elles permettaient un travail qui a été celui du PAIGC. On peut aussi évoquer le fait que le PAIGC aura des missiles terre-air, les missiles Strela, avec lesquels il va pouvoir abattre des avions portugais. Et les avions étaient justement ce qui était le plus difficile dans le cas des autres colonies. Pourquoi la Guinée, elle y arrive? Il y a toute, disons, il fallait rester là pendant pas mal de temps, parce que il y a toute une capacité d'organisation de cette guérilla et la formation de cadres qui permet effectivement qu'ils avancent beaucoup plus dans le terrain. Mais les conditions aussi du terrain sont très spécifiques et qui permet que effectivement après avoir pris les armes en 1963, ils ont été capables en 1973 déclarer cette indépendance.
Didier Péclard, dans le cas de la Guinée, on l'entend bien, mais ça vaut également pour les autres territoires, le Mozambique ou l'Angola, on ne peut pas réfléchir à cette lutte-là en restant enfermé dans des frontières. On l'entend bien avec l'approvisionnement en armes, avec les capacités d'aller à l'extérieur pour s'entraîner ou se réfugier. C'est une histoire qui concerne l'ensemble du continent africain.
Oui, effectivement. D'abord, même la création même des mouvements d'indépendance se fait pour certains en dehors de l'Angola. L'UPA est formée en tant que UPNA, Union des Populations du Nord de l'Angola, notamment dans la diaspora angolaise qui se trouve à Léopoldville, de futur Kinshasa. Le MPLA en tant que mouvement, donc Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, qui deviendra, enfin qui est d'ailleurs toujours le parti au pouvoir en Angola et qui prend le pouvoir au moment de l'indépendance en 1975, est un parti qui, en tant que parti, se crée aussi en exil. De même, le Frelimo aussi a pu bénéficier aussi de l'appui de la Tanzanie indépendante. Enfin, cette dimension régionale est effectivement très importante. Il y a aussi ensuite des alliances qui commencent un petit peu à se tisser dans le cadre de la guerre froide, ces différents partis étant idéologiquement différents, bien sûr, mais c'est vrai que c'est le soutien des différents partenaires de la guerre froide interviendra un peu plus tard.
Avec tous ces jeunes Portugais envoyés sur ces territoires pour faire la guerre, on parle beaucoup de l'Angola, mais il y a le Mozambique aussi, il y a la Guinée-Bissau. Oui, partir, c'est une chose, mais parfois, la question est celle de la désertion.
Diz à minha mãe que eu não vou pra guerra. Diz à minha mãe que eu não vou pra guerra. Diz ao mar à minha mãe que matar não me apraz. No fundo, quem vai à guerra é aquele que a não faz. Vou cantar a liberdade para a minha pátria amada e para a mãe negra e triste que vive acorrentada. Mas a voz do nosso povo no dia do julgamento te dirá a ti, ó mar, e dirá de vento a vento quem são os traidores, se é quem nos rouba o pão ou se nós os desertores. Que à guerra dizemos não.
Luis Cilia, Canto do Desertor, je ne le traduis même pas ce titre, le chant do Desertor, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet et Anna Holbeck, avec aujourd'hui la technique Ludovic Auger. Aujourd'hui, nous réfléchissons aux racines de la révolution des œillets au Portugal. Se trouve-t-elle dans un empire colonial en crise ? Maria Benedita Basto, il faut le dire que cette histoire-là, c'est aussi une histoire liée à des vécus, à des destins, et tous ces jeunes Portugais envoyés dans ces territoires en lutte, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, reste profondément ancré dans les esprits.
Oui, tout à fait. Peut-être pour faire juste un petit contexte, il faut penser que la question coloniale et la question d'une décolonisation, elle n'apparaît pas tout de suite dans les différents mouvements de résistance à Salazar. Disons, il y a des candidats, par exemple, au moment où, sous la pression de l'après-deuxième guerre mondiale, il va essayer de faire un simulacre d'élection présidentielle, et les candidats ne sont forcément contre l'Empire colonial. Donc il y a quand même un tournant qui, d'une part, on peut parler de ce congrès du Parti communiste en 57 où finalement il change sa position parce qu'au départ le Parti communiste préférait que les militants, ces militants, y compris les militants issus des colonies, créent des sections du Parti communiste dans les colonies, puisque c'était d'abord le fascisme et après en vrai. Mais à partir de 57, donc il va inscrire l'idée d'une autodétermination nécessaire. D'autre part, il y a aussi cette année 61 encore, avec une tentative de coup militaire de quelqu'un qui était proche de Salazar, son ministre de la Défense, Boutel-Mounich, qui comprend comme il y a d'autres militaires de haut rang qui comprennent que effectivement il faut changer cette politique et que il faut donner les indépendances. Ce coup militaire échoue et c'est donc la politique de Salazar qui va se mettre en place, c'est-à-dire cette guerre coloniale très longue entre 61 et 74, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de jeunes portugais qui sont obligés de faire cette guerre. Ce sont des missions de 3-4 ans, donc c'est très long pour ces jeunes, avec des pertes de vie immenses, à peu près 9 000 ou 10 000 même, un peu plus 10 000 actuellement. Les dernières recherches nous disent que ce serait même plutôt 10 000, avec beaucoup de soldats aussi qui vont rentrer avec des gros problèmes psychiques et d'autres types d'handicaps. Mais dans ce positionnement de la désertion, qui va être aussi, disons, une stratégie, une arme utilisée par certains des jeunes portugais, je crois que ce serait important, et notamment dans ces dernières années, d'une prise de position des catholiques progressistes. Je crois que la question de la guerre coloniale, elle prend vraiment de l'ampleur d'un point de vue de la société portugaise, société catholique, à partir du moment des vigiles qui sont faites par des catholiques, des crèves de faim, des vigiles qui sont faites par des catholiques, notamment cette vigile dans la chapelle de Rato. Donc aussi des prêtres qui sont là, qui soutiennent ces actions et qui changent, qui créent un débat au sein des familles, par exemple, sur la guerre coloniale.
Oui, le débat sur la guerre coloniale, au moins la capacité d'en discuter, ça aussi c'était...
Ce qui n'était pas évident.
Voilà, c'était pas évident.
C'est pour ça que je parle de ce tournant avec sûrement ces catholiques progressistes, où il y a des noms aussi qui vont être avec ces catholiques, pas forcément des catholiques comme Carl Zantun, Maria de Conceição Moita, voilà.
Didier Péclard, c'est une guerre en plus très difficile. Hein. Vous avez utilisé ce mot de guérilla. On parle des pertes portugaises. On pourrait parler aussi des pertes de celles et ceux qui luttent pour s'affranchir de cette domination. Une guerre très difficile.
Oui, effectivement, une guerre très difficile pour les deux côtés. Je profite d'ajouter encore à ce qui vient d'être dit le fait que, assez peu connu finalement, que la proportion de jeunes portugais envoyés pour aller lutter dans les anciennes colonies, entre les années 60 et début des années 70, est pratiquement semblable à la proportion de jeunes américains envoyés au Vietnam. Et on a évidemment tous en mémoire un certain nombre de films qui sont revenus sur le traumatisme que ça a pu constituer pour, bien sûr, la société vietnamienne, mais aussi la société américaine, notamment au travers du parcours de ces jeunes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu connu sur la société portugaise, et probablement que ce traumatisme-là encore n'a pas encore été totalement travaillé. À cela s'ajoute aussi le fait que, bien sûr, comme dans d'autres territoires coloniaux en guerre, la plus grande partie des troupes coloniales sont en fait des Mozambicains, des Guinéens et et les Angolais, qui sont eux aussi massivement intégrés à l'armée et qui doivent lutter contre leurs propres frères et sœurs des mouvements nationalistes, qui compliquent encore bien sûr la donne. Et la guerre est aussi compliquée, elle est violente et elle est dure, et on le voit bon, par exemple dans l'œuvre de l'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes, mais aussi dans d'autres, dans l'œuvre, pour le cas de l'Angola, dans l'œuvre du grand écrivain angolais Pepe Tela. Et elle est dure aussi parce qu'il y a, à part en Guinée-Bissau, où là on a un mouvement uni, il y a en Angola trois mouvements nationalistes qui non seulement luttent contre, enfin, deux d'abord et un troisième à partir de 1966, qui luttent contre les troupes portugaises et en même temps qui luttent entre elles, en fait, ce qui complique encore la guerre. Au Mozambique, on a en revanche un front uni qui est le Frelimo, mais dès la fin de, enfin assez rapidement après l'indépendance aussi, il y aura l'émergence d'un autre mouvement, la Renamo, qui va lutter, qui va mener une guerre civile très très longue contre le Frelimo, ce qui est aussi en quelque sorte le miroir d'un certain nombre d'inégalités ou disons de divisions au sein de la société mozambicaine comme au sein de la société angolaise, qui vont ressortir dans le cas angolais pendant la guerre de libération, dans le cas du Mozambique, qui vont ressortir plus tard, même si il faut pas oublier bien sûr que la Renamo a été créée aussi avec l'aide des services secrets rhodésiens et sud-africains. Donc la guerre est dure aussi parce qu'elle renforce et elle crée des divisions sociales qui vont durer en fait très longtemps et qui pour certaines ne sont pas encore résolues en quelque sorte.
Oui, elle reste dans les esprits, cette fois direction le cul de Judas.
Nous revenons aussi propres que les généraux dans leur cabinet à air conditionné, à Luanda, déplaçant des points de couleur sur la carte d'Angola. Aussi propres que les messieurs qui s'enrichissaient en faisant le trafic d'hélicoptères et d'armes à Lisbonne. La guerre est dans le cul de Judas, dans les trous pourris, vous comprenez, et non pas dans cette ville coloniale que je hais désespérément. La guerre, ce sont les points de couleur sur la carte d'Angola et les populations humiliées, transi de faim sur les barbelés, l'invraisemblable profondeur des calendriers immobiles.
Le cul de Judas est le titre du roman de l'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes, paru en 1979. Maria Benedita Basto, ici on a, on peut le dire, un témoignage, une évocation de l'horreur qu'ont pu connaître ces combattants portugais sur ces territoires. Avec cette prise de conscience, et on l'entend au Portugal, vous avez évoqué une partie des catholiques qui réfléchissent à la question coloniale. Cette question coloniale entre dans le débat politique de plus en plus à la fin des années 1960, au début des années 1970 au Portugal. Il y a une contestation, disons-le d'une autre manière, à partir du moment où Salazar a sa crise, il tombe malade en 1968, où il est moins présent au pouvoir. On commence à remettre en cause cette politique d'une guerre dans les territoires, dans les colonies portugaises.
Alors, je voulais juste compléter un petit peu encore le point. C'est par rapport à ce que Didier parlait d'une africanisation de l'armée portugaise. Il y a les Portugais, et avec la PIDE, ils vont aussi créer des groupes spéciaux.
La police politique.
Oui, la police politique. En Angola, Mozambique et Guinée, ils vont créer des groupes spéciaux, des commandos africains. Et ça, c'est aussi assez important, disons, pour comprendre ce qui va se passer après la décolonisation. Et en Guinée, par exemple, il y a même ce qu'on appelle le bataillon de commandos africains. Et ça, c'est aussi un élément assez intéressant pour comprendre cette dynamique de la guerre. Pour revenir sur votre question, comme je disais tout à l'heure, cette prise de position du Parti communiste qui, au fond, organisait clandestinement une grande partie de la résistance portugaise à Salazar, elle a été importante. Mais bien sûr que elle reste quand même cantonnée à ceux et celles que, dans la société portugaise, arrivaient quand même à sortir de cette pression et de cette oppression qui représentait le régime de Salazar.
Il y a quand même un premier ministre, Marcelo Caetano, qui prend la parole et...
À partir du moment où Caetano prend le pouvoir, effectivement, on attend une ouverture. On attend une ouverture, ce qu'on appelle la primavera marceliste, le printemps marceliste, et peut-être la capacité de finalement entrer en négociation, en dialogue avec les mouvements de libération. Mais ça ne va pas se faire, et Marcel Caetano entame un voyage dans les différentes colonies. Et il sort de ce voyage avec encore une plus grande conviction qu'il ne faut pas négocier et qu'il ne faut pas donc donner l'indépendance. Il va faire aussi une espèce de lifting, une révision de la constitution portugaise. Il va essayer de donner le statut d'État à certaines colonies comme le Mozambique et l'Angola, mais par contre il s'oppose complètement à des conversations qu'avait entamé Antonio Spínola avec Senghor. Et où potentiellement il y aurait à un moment donné aussi Amílcar Cabral si ces conversations se poursuivaient, mais Caetano va refuser de continuer ces conversations pour une possibilité de négocier.
Voilà, Antonio Spínola, qui avait été gouverneur de la Guinée. Exactement. Et qui a été limogé pour avoir évoqué une idée peut-être de discussion ou d'indépendance de Didier Péclard. Il nous faudrait quand même se poser la question finale autour de la révolution des œillets. Le 25 avril 1974, révolution des œillets au Portugal. Est-ce que l'on peut dire que les racines de cette révolution doivent vraiment se trouver dans l'empire colonial portugais ?
Oh, ils y sont en partie, je pense que c'est incontestable, et il suffit de voir aussi qui sont les jeunes officiers qui font la révolution à ce moment-là, le 25 avril à Lisbonne. Une partie d'entre eux effectivement ont eu cette expérience difficile et traumatique dans les anciennes colonies. Il y a ce besoin de changement. Il y a effectivement, on a parlé de Spínola qui arrive au milieu des années 70 avec cette idée de reformer en quelque de trouver une manière pour continuer l'empire, mais ça ne marche pas. Et donc il y a un profond besoin, une profonde volonté de changement qui est notamment ancrée dans l'expérience de la guerre, des guerres coloniales menées dans les années 1960. Mais sans être un grand spécialiste moi-même de la révolution des œillets, je pense qu'il y a aussi d'autres éléments. Il y a à partir de cet espoir déçu du printemps marceliste que Maria Benedetta vient d'évoquer. Il y a aussi un changement dans les élites, notamment dans les élites économiques portugaises, qui se tournent de plus en plus vers la future Union européenne à partir du milieu des années 70 aussi, dont ils voient bien finalement que ils voient bien que la richesse du Portugal, si elle a pu se baser de façon assez importante sur les colonies jusque dans les années 60, à partir de la fin des années 60, début des années 1970, on a vraiment un mouvement de plaque tectonique qui fait que l'économie portugaise s'ouvre beaucoup plus à l'Europe et au reste du monde, et en quelque sorte le fruit est mûr au moment où la révolution des œillets se fait. Il y a aussi une immigration, comme on le sait, très importante vers la France, vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers d'autres pays européens qui ont profondément changé la société portugaise. Donc la fin de l'Empire et les guerres coloniales ont joué un rôle très important, notamment comme déclencheur, mais il y a aussi des profonds changements sociaux qui sont en partie liés à ce qui se passe dans les anciennes colonies et en partie dépendent d'autres dynamiques, en fait.
Voilà, un peu de complexité. Bien sûr, il n'y a pas une origine unique d'une révolution. On sent qu'il y a tous ces paramètres. Il faut en revanche, tous les prendre en compte. Et l'empire colonial portugais, ses luttes pour l'indépendance ou pour s'affranchir d'une domination portugaise, c'est vraiment au cœur de toute cette réflexion. Merci beaucoup à vous deux, Didier Péclard, Maria Benedita Basto, de nous avoir présenté ce monde-là. Nous sommes à la veille de la révolution des œillets, cette histoire qui nous intéresse. Merci vivement à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment.
Pourquoi Hérodote croyait-il que les femmes des steppes d'Asie centrale étaient des Amazones ? Dans le passage de ses histoires où il raconte la guerre qui opposa vers 513 avant notre ère les Scythes et les Perses de Darius Ier, Hérodote évoque les Sauromates, un peuple que les Romains ont nommé ensuite les Sarmates. Ces cavaliers nomades, qui s'étaient alliés aux Scythes pour résister à l'invasion perse, vivaient à l'origine dans les steppes, entre le Don et la mer Noire, ce qui les placèrent en contact avec les Grecs. Si l'on en croit Hérodote, les Sauromates étaient les descendants des unions entre des hommes Scythes et des femmes que la langue locale désignait comme des meurtrières d'hommes. Hérodote insiste sur la place importante que celles-ci occupaient dans leur communauté et la nouveauté de leur rôle au sein d'une société de pasteurs nomades, également chasseurs et guerriers. Les femmes des Sauromates mènent le genre de vie de leurs antiques aïeules. Elles vont à la chasse à cheval et avec leurs maris et sans eux. Elles vont à la guerre, elles portent le même accoutrement que les hommes. Aucune fille ne se marie avant d'avoir tué un ennemi. Il en est qui meurent, et meurent vieilles, avant d'être mariées, faute de pouvoir satisfaire à cette loi. Si l'on en croit le récit de l'historien grec, les femmes sauromates, tout au moins celles qui appartenaient à l'aristocratie, auraient donc partagé les tâches des hommes et probablement leurs droits, sans doute parce que leurs activités s'exerçaient essentiellement à l'extérieur du foyer. Les spécialistes de l'histoire ancienne de l'Asie centrale se sont interrogés sur le crédit qu'on pouvait accorder à ce genre de témoignages. Les recherches menées après la Seconde Guerre mondiale, principalement par les archéologues soviétiques, ont permis d'enrichir considérablement nos connaissances sur les peuples nomades qui parcoururent dans l'Antiquité la steppe eurasiatique de la Pontide jusqu'aux confins du monde chinois. Ils ont pu ainsi confirmer ce que la linguistique avait déjà établi concernant l'origine commune de ces différentes peuplades. Le riche mobilier découvert dans les tombes des nomades qui vivaient en Europe orientale, en Sibérie méridionale ou au centre de l'Asie a prouvé qu'ils avaient adopté des coutumes, des croyances et un mode de vie commun. L'ensemble des témoignages écrits et figurés qui ont été rassemblés convergent aussi pour souligner le rôle central que jouaient les femmes dans la vie économique, sociale, religieuse et parfois politique de ce monde nomade. Les fouilles des tombes où furent ensevelies les femmes de rang princier, richement décorées et dotées d'armes, ont également confirmé cette place éminente pour les 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. On peut donc faire l'hypothèse que, sous son apparence de fable et son parti pris d'exotisme, le témoignage d'Hérodote est une confirmation écrite du statut social élevé qu'occupèrent certaines femmes de nomades dans l'Antiquité. Au XIXe siècle, des ethnographes russes signalèrent encore l'existence, dans ces steppes pontiques, d'expéditions de guerriers à cheval auxquelles participaient des femmes. Ce sont même elles qui, parfois, les commandaient.
Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci aux équipes techniques de Radio France et de la radio-télévision suisse, la RTS. Merci à Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copin, Mathieu Copal, Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.